VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Chérubin, Gabi, Dorcil et Anastasie Tudiech avec vous. Bienvenue dans cette édition du vendredi 5 février 2016. À la une ce soir, Gabi.
Une base de l'ONU attaquée à Tombouctou dans le nord du Mali. Bilan, un militaire malien et 4 présumés djihadistes tués.
Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Paul Kaba-Tiéba fait sa déclaration de politique générale au Parlement.
L'institutionnalisation de la culture du résultat et de l'obligation de rendre compte sera un des principes fondateurs de mon gouvernement.
En plein cœur d'une crise qui a fait plusieurs centaines de morts et environ 300 000 réfugiés, le Burundi fête l'unité nationale.
Quand la charte de l'unité a été signée entre les Burundais, il y avait des problèmes de division. Mais de là à aujourd'hui, on a certainement fait un pas très important, même s'il y a eu des hauts et des bas.
Catastrophe naturelle au Zimbabwe. La déclaration a été faite par le gouvernement à cause d'une grave sécheresse.
L'excision, un problème toujours actuel. Au moins 200 millions de filles et de femmes dans 30 pays ont subi ce phénomène, selon un nouveau rapport de l'UNICEF.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Attaque djihadiste ce vendredi contre un camp des troupes onusiennes à Tombouctou dans le nord du Mali. Selon une source sécuritaire, un militaire malien et au moins 4 assaillants ont été tués. Les assaillants étaient venus à bord de 2 véhicules pick-up. Le ministre malien de la Défense, Tiémane Hubert Koulibaly, a estimé que les terroristes étaient au nombre d'une demi-douzaine. 3 ont été neutralisés, 1 s'est fait exploser, toujours selon le ministre.
Le premier ministre burkinabé, Paul Kaba-Tiéba, était devant les députés ce vendredi pour sa déclaration de politique générale.
L'institutionnalisation de la culture du résultat et de l'obligation de rendre compte sera un des principes fondateurs de mon gouvernement. En matière de lutte contre la fraude et la corruption dans l'administration, mon gouvernement, je l'ai dit, appliquera le principe de la tolérance zéro et rendra effective la déclaration de patrimoine des responsables administratifs. En outre, les dispositions seront prises pour assurer la formation adéquate des magistrats, mettre en place des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières.
La déclaration du Premier ministre Tiéba devait être suivie d'un vote de confiance des parlementaires.
La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies se dit très préoccupée par les tensions politiques et institutionnelles en Guinée-Bissau. Écoutons le reportage de Noua Mankali.
Cette institution onusienne souligne que cette situation est très préoccupante en ce qu'elle risque d'être à l'origine d'une incertitude inutile dans le pays. La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies souligne que cette situation a causé un impact négatif sur le fonctionnement de l'État, y compris l'interruption des services sociaux à la population. La Commission de la consolidation de la paix des Nations Unies encourage les autorités nationales à respecter les engagements pris à la table ronde de Bruxelles et d'assurer un environnement stable propice au décaissement des contributions des donateurs. En outre, la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies félicite la CEDEAO pour maintenir son engagement de haut niveau avec la Guinée-Bissau. La Commission recommande le réengagement de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo au nom de la CEDEAO à travers une visite à un moment approprié. Noua Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Le Zimbabwe, victime de la grave sécheresse qui touche l'Afrique australe, s'est déclaré ce vendredi en état de catastrophe naturelle, une situation qui devrait s'aggraver à cause du phénomène climatique El Niño. On fait le point avec John Lendon.
Le Zimbabwe compte désormais 2,44 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, soit 26% de la population, a annoncé le ministre des gouvernements locaux et des travaux publics. 2015 a été l'année la plus sèche depuis un siècle. Les réservoirs d'eau sont à moitié vides dans le pays, où plus de 16 000 vaches sont déjà mortes et 75% des récoltes ont été ravagées, selon le ministre qui assure que le gouvernement va prendre des mesures sans donner de précision. Dans les zones rurales, les villageois, privés de leur alimentation de base, sont contraints de consommer des fruits sauvages ou de réduire leur nourriture. L'agriculture zimbabwéenne subit de plein fouet la sécheresse, alors qu'elle est déjà fragilisée depuis les années 2000 par la réforme agraire du président Mugabe. Ce dernier soutient de son côté que les sanctions imposées par les pays occidentaux ont aussi contribué à la baisse de la production agricole.
Les islamistes radicaux somaliens Shebab ont repris aujourd'hui le contrôle du port de Merka, à environ 100 km au sud de Mogadiscio. Le port qui était sous contrôle des forces gouvernementales et des troupes de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, depuis août 2012, avait été évacué par lesdites forces pour une raison encore inconnue. Avec cette reconquête, les Shebab retrouvent un accès stratégique à la mer. Les sources gouvernementales interrogées à Mogadiscio ont refusé de commenter la prise du port.
Effondrement dans une mine d'or en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga, au nord-est du pays. 75 mineurs ont pu être sauvés, 3 sont portés disparus. Les accidents graves se sont multipliés ces dernières années dans la mine sud-africaine, la plus profonde au monde. Le plus récent remonte au mois de janvier dernier et avait fait 4 victimes.
L'épidémie de fièvre de Lassa, annoncée en début de semaine au nord de Cotonou, a désormais atteint Porto Novo, la capitale du Bénin. Un cas y a été signalé ce matin. Cette infection virale a été identifiée pour la première fois au Nigeria en 1969, dans la localité qui lui a donné son nom. Dans 80% des cas, la fièvre est asymptomatique, mais pour les 20% restants, elle peut provoquer des atteintes hémorragiques ou neurologiques graves. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec les sécrétions et fluides d'une personne malade.
À Luanda, en Angola, une fédération d'organisations de lutte contre le sida va distribuer près de 500 000 préservatifs pendant le carnaval qui aura lieu du 6 au 9 février. 10 équipes de distribution ont été déployées dans la ville pour informer le public et les habitants vont pouvoir venir tester leur statut sérologique dans des cliniques mobiles positionnées dans certaines banlieues. Selon les données officielles, entre 350 000 et 500 000 Angolais vivent avec le virus HIV pour un taux de prévalence nationale de 2,4%.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, il y a du nouveau dans l'affaire de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis juin 2012. Le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU a conclu qu'il est victime d'une détention arbitraire et qu'il doit immédiatement pouvoir retrouver sa liberté de mouvement. Une suggestion que rejettent les autorités britanniques et suédoises. Explication avec Maëlys Hegel.
Lors d'une vidéoconférence de presse organisée par ses avocats, Julian Assange a salué la décision de l'ONU comme étant une victoire significative. Il a appelé le Royaume-Uni et la Suède à le laisser libre. L'avis du comité de l'ONU a été immédiatement rejeté par Londres et Stockholm. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philippe Hammond, le juge ridicule et considère que le fondateur de Wikileaks est un fugitif. Soupçonné du viol d'une Suédoise, Julian Assange a été arrêté en 2010 à Londres. Réfugié en 2012 à l'ambassade d'Équateur, il clame son innocence et fait état d'un dossier monté de toutes pièces pour l'extrader vers les États-Unis. Assange pourrait en effet se voir reprocher la publication sur Wikileaks de 500 000 documents américains classés secret défense sur l'Irak et l'Afghanistan et 250 000 communications diplomatiques. En attendant que la situation s'éclaircisse, Julian Assange n'est toujours pas sorti de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Affaire à suivre.
Au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines blessées vendredi par un incendie déclenché dans un hôtel d'Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, ont indiqué des responsables. Au moins 14 des personnes décédées étaient des étrangers, pour la plupart originaires des Philippines, a précisé à l'AFP un responsable du ministère de la Santé.
En Syrie, plus de 120 combattants des forces rebelles et du régime ont été tués aujourd'hui dans de violents combats pour le contrôle d'une localité proche d'Alep, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, alors que l'armée poursuivait son offensive dans la province. Selon l'OSDH, que cite l'AFP, les rebelles ont repris aux forces gouvernementales plus de la moitié de la localité de Ratian dans ces violents combats qui ont fait environ 60 morts côté rebelles et 60 autres dans les rangs du régime.
L'Union européenne et l'OTAN prêts à en faire davantage pour soutenir un éventuel gouvernement d'unité en Libye où la menace djihadiste s'accentue, ont indiqué vendredi des responsables à Amsterdam. La Libye, pays en proie au chaos, actuellement gouverné par deux gouvernements et parlements rivaux, était au cœur d'une réunion des ministres européens de la Défense vendredi à Amsterdam, aujourd'hui donc, à laquelle était convié le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La rencontre a été suivie d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et hier, le Pentagone a estimé que le nombre de djihadistes avait doublé en Libye, alors que leur nombre décroît en Irak et en Syrie.
Politique américaine, le sénateur Bernie Sanders ne cesse de réduire l'écart avec sa concurrente Hillary Clinton dans la course aux primaires démocrates, un sondage national le créditant ce vendredi de 42% des voix contre 44% pour l'ancienne secrétaire d'État à 4 jours du prochain vote. Le démocrate socialiste de 74 ans domine en revanche de 20 points l'ancienne première dame dans d'autres sondages pour le New Hampshire, voisin du Vermont dont il est sénateur et dont les électeurs doivent se prononcer mardi.
Les employeurs, on reste aux États-Unis avec cette nouvelle. Les employeurs américains ont enlevé leur pied de l'accélérateur le mois dernier quant à la création d'emplois. Mais tout de même, ils ont créé des emplois à un rythme assez bon pour aider à apaiser les craintes d'une récession. Le département du travail a déclaré ce vendredi que la masse salariale a augmenté de 151 000 en janvier.
Il faut dire que le taux de chômage a chuté à 4,9%.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco tout de suite avec vous, Claire Morin-Gibourg.
L'Union européenne a prolongé d'un an, soit le 31 janvier 2017, le gel des avoirs de l'ex-président tunisien Ben Ali et de son épouse Leila Trabelsi. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le total de ces avoirs pourrait atteindre 9 milliards de dollars. La décision a été saluée par la société civile tunisienne qui continue d'espérer que cet argent puisse être rapatrié. Il s'agit d'un manque de volonté politique de l'État, selon eux. Bonne nouvelle en provenance du Sénégal. L'emploi salarié dans le secteur moderne a progressé de 3% en 2015, selon la direction de la prévision et des études économiques. Si le nombre des salariés du secondaire s'est replié de 2,3% pour la même période, la hausse de 8,9% dans le secteur du commerce est encourageante. Une pénurie de poissons d'eau douce en Côte d'Ivoire occasionne une flambée des prix de cette première source de protéines animales. Sur le principal marché de poissons au centre de Boaké, le taux de 3 carpes d'eau douce qui coûtait 1000 francs CFA avant la pénurie en 2015 est revendu aujourd'hui à 2000 francs CFA, soit une augmentation de 100%, a constaté l'agence APA. Réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans le cadre d'une journée interprofessionnelle, les banques et établissements de crédit d'Afrique se sont engagés à soutenir le développement pour mieux aider à la relance des économies.
Merci Claire Morin-Gibourg, c'était la Minute Éco.
Les sports ce vendredi, c'est avec Timothée Dolangma et salut Tim.
Bonsoir Gabi.
Alors on commence par le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2016. C'est la pause au Rwanda avant le verdict de cette compétition.
Et oui Gabi, tout se jouera dimanche avec le choc Guinée-Côte d'Ivoire pour la troisième place et le duel RDC-Mali pour le trophée. Il faut dire Gabi que les deux finalistes ont avancé de justesse. Le Mali s'imposant par 1-0 face à la Côte d'Ivoire et la RDC ayant été plus à droite que la Guinée au tir au but.
Je n'ose pas faire le pronostic ayant à côté de moi Anastasie Tudiège.
C'est une bonne chose.
Voilà, mais je crois quand même que...
Mais non, pas de pronostic on a dit.
Que le meilleur gagne.
Voilà.
Que le meilleur
gagne.
Alors en marge du CHAN, on suit de près à Kigali la réunion de la Confédération africaine de foot qui pourrait avoir un grand impact, Tim, sur l'élection du président de la FIFA.
Tout à fait Gabi, avec 54 voix, la CAF constitue le plus important bloc électorale devant l'Europe, 53 voix, et l'Asie, 46. La CONCACAF comptant 35 voix, l'Océanie, 11, et l'Amérique du Sud, 10. 4 des 5 prétendants à la présidence de la Fédération internationale ont fait le déplacement de Kigali. Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa de Bahreïn, président de la Confédération asiatique de football, le Suisse Gianni Infantino, numéro 2 de l'UEFA, le Sud-Africain Tokyo Sexwale et le Français Jérôme Champagne.
L'unique absent parmi les candidats est le prince Ali de Jordanie.
Et oui, Gabi, ce dernier voit d'un mauvais œil l'accord de partenariat conclu le 15 janvier par la CAF et la Confédération asiatique. Une tentative de violer les règles électorales en faveur du patron de la Confédération asiatique, estime le prince Ali. Il n'en est rien, assure Issa Hayatou, président de la CAF et président intérimaire de la FIFA.
Ici aux États-Unis, l'événement sportif de l'année se jouera dimanche à San Francisco.
Et oui, il s'agit de la finale de la NFL, le championnat de football américain, ce cousin du rugby. C'est donc le Super Bowl. Les Denver, les Broncos de Denver affronteront les Carolina. Carolina Panthers. Les Panthers partent favoris, mais beaucoup de fans aimeraient voir Denver gagner à cause de son quarterback, Peyton Manning, qui pourrait jouer, Gabi, sa dernière finale.
Oui, Manning qui a éliminé mon équipe, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Merci, Tim.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiaché, chérubin d'Orcil, en votre compagnie, place au dossier du jour. On va au Cameroun, Gabi.
Oui, le Cameroun où des associations de défense des droits de l'homme appellent le gouvernement à améliorer les conditions de vie dans les prisons surpeuplées. Elles dénoncent l'insalubrité, le manque d'eau et de nourriture, ainsi que la torture, qui est une pratique courante dans les lieux de détention. Notre correspondant Moki Edwin Kinzeka a visité une prison à Yoko, dans le centre du Cameroun. Son reportage présenté par Lionel Gaïma.
Penda Emmanuel, 26 ans, a déjà passé 4 années de sa vie à la prison de Yoko dans le centre du Cameroun. Il avait été condamné à 7 ans de prison pour vol et tentative de meurtre. Après 2 ans de détention à Yaoundé, il a été transféré à Yoko.
Non,
ce n'est pas bon à Yoko. D'abord, il n'y a pas à manger. Les gens survivent grâce à la chasse et toutes sortes de choses. Cela veut dire que si vous êtes à la prison de Yoko, vous allez beaucoup souffrir. Pem Clément, lui, est condamné à perpétuité après avoir été reconnu coupable de meurtre. Selon lui, le manque de nourriture et d'eau potable, ainsi que la torture et les traitements inhumains, ont provoqué des émeutes à son arrivée à Yoko il y a une dizaine d'années.
Les prisonniers s'étaient évadés de cette prison et on avait envoyé les corps armés de Yaoundé. Et ces prisonniers faisaient vraiment du massacre dans la ville, au point où on avait sonné la cloche de la gendarmerie et on a demandé à 18h, personne ne doit plus jamais sortir. Les hélicoptères faufilaient dans tous les champs et les prisonniers là ont violé les grands-mères. Ils ont tout fait, mais on les tuait aussi. On ne sait pas maintenant si certains se sont échappés ou bien on avait tout pris.
Les 78 centres de détention du pays étaient faits pour accueillir 16 000 prisonniers. Maintenant, ils sont plus de 30 000, dont la plupart en attente de jugement. Des prisons comme celle de Kondengi à Yaoundé devaient recevoir 500 prisonniers, mais sont maintenant bondées, leur population carcérale ayant été multipliée par 4. Chez Mouta Divine préside la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Son groupe appelle au respect des droits des prisonniers en leur garantissant des procès équitables ainsi que la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Vous ne pouvez continuer de nier ce que tout le monde sait et dont les preuves sont là. Acceptez plutôt qu'il y a des violations. Trouvez les causes profondes et les solutions pour que ne se reproduisent plus. Mapoui David, régisseur de la prison de Yoko, assure pour sa part que des efforts sont faits. Selon lui, en 2 ans, le nombre de prisonniers y est passé de 3 000 à 100 aujourd'hui.
La prison de Yoko se porte bien pour le moment. Et puis l'État fait des efforts pour cette prison. Il n'y a que l'adduction d'eau, le forage, qui n'est pas réalisé. Les détenus souffrent beaucoup pour ce problème d'eau. Vous savez que la prison de Yoko reçoit par transfèrement. Donc il n'y a pas une juridiction à Yoko pour placer les personnes en détention. Donc je ne prends que les détenus soient de Yaoundé, de Ntui, de ça. Je dois prendre les détenus de Yaoundé pour décongestionner la prison centrale. Pour le moment, non. Mais je pense que les projets de l'État voudraient que ceux qui sont à Yaoundé, déjà condamnés, peuvent venir à Yoko. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore là.
Mais puis David rejette les allégations de prisons surchargées. Amnesty International avait rapporté en septembre que les prisons camerounaises sont surpeuplées avec de nombreuses arrestations de membres présumés de Boko Haram, particulièrement à Maroua, près de la frontière avec le Nigeria. Yaoundé avait rejeté ces accusations.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham.
Au Burundi, 25 ans après l'adoption de la charte de l'unité nationale, malgré la persistance de la violence sur une base politique depuis avril 2015, qui a fait plus de 439 morts et presque 300 000 réfugiés selon les Nations Unies, l'État continue à fêter l'unité nationale. Le président de la République et plusieurs dignitaires étaient à Karouzi, au centre-est du pays, tandis que le deuxième vice-président était au moment de l'unité avec le maire de la capitale et le ministre des Relations extérieures. Notre correspondant Christophe Nkuruziza était sur place. Voici son reportage.
Le ministre de la Communication reconnaît qu'il y a eu des hauts et des bas ces 25 dernières années pour asseoir une unité véritable. Nestor Bangomukunzi.
Quand la charte de l'unité a été signée entre les Burundais, il y avait des problèmes de division, mais de là à aujourd'hui, on a certainement fait un pas très important, même si il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, l'unité est désormais une préoccupation de tout le monde. On ne peut pas avancer sans l'unité. Je dirais donc qu'on a fait un pas. Il y a des défis qui restent à relever, mais un pas important a été franchi.
Même constat pour le ministre des Relations extérieures, Alain Nyamitwe, qui affirme que la charte de l'unité nationale est même plus importante que l'accord d'Arusha.
L'hymne et la charte restent d'actualité, 25 ans après. Il est vrai que deux ans après l'adoption de la charte de l'unité nationale, le Burundi a connu une crise la plus profonde de son histoire, mais une crise qui, à mon sens, n'a fait que confirmer la nécessité de l'unité nationale et qui est aujourd'hui encore et encore l'instrument supra-constitutionnel par excellence, au-delà même de l'accord d'Arusha qui, comme vous le savez, s'est inspiré de la charte de l'unité nationale. Je crois donc que 25 ans plus tard, nous pouvons également projeter 25 ans plus loin, avoir un regard positif sur l'indispensable unité, toujours. Le Burundi, sans aucune des trois composantes, n'est plus un pays qui s'appelle Burundi. La nation burundaise est connue pour sa composition, notamment par les Hutus, par les Tutsis et par les Tois.
Cette célébration arrive au moment où la classe politique reste divisée sur le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza et des opposants qui clament qu'il est illégal et anticonstitutionnel. Une division qui a fait déjà des centaines de morts selon les Nations Unies. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'excision en question. Au moins 200 millions de filles et de femmes dans 30 pays ont été excisées, la majorité avant leur cinquième anniversaire. C'est un rapport de l'UNICEF publié hier qui le dit, à la veille de la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. 85% des fillettes au Yémen subissent l'excision au cours de la première semaine de leur existence. En 2012, l'ONU a approuvé à l'unanimité une résolution demandant l'interdiction des mutilations génitales féminines. Nathalie Bach, adjoint à Bamako, le docteur Younoussa Touré, socio-anthropologue, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet.
Oui, je pense que les mentalités n'ont pas tout à fait évolué, ou peut-être qu'elles ne se sont pas, en tout cas jusque-là, adaptées au message, enfin, ne sont pas tout à fait réceptives au message qu'on leur envoie par rapport à ce phénomène de lutte contre l'excision. Je pense que c'est un peu plus ça qu'une situation d'évolution, c'est-à-dire que à mon avis, les gens ne sont pas tout à fait, dans certaines mesures, convaincus par les messages, parce qu'il y a des messages qui sont souvent contradictoires entre les différents intervenants de l'excision sur la contraception, sur la planification, etc. Et puis bon, il y a d'autres qui trouvent un peu leur fin et qui ont un langage contraire. Enfin, c'est ça, quoi. Donc, c'est pas que les mentalités n'ont pas évolué. Les mentalités ont évolué dans la mesure où les gens, de plus en plus, connaissent les méfaits, connaissent les dangers. Mais il y a juste deux phénomènes. On a voulu lutter du côté de la loi, on n'est pas allé trop loin. Du côté de la religion, on leur a dit dans une certaine étude qu'il n'est pas permis à un imam, quel que soit son niveau, d'interdire ce que le prophète, paix et salut sur lui, n'a pas interdit. Du côté des villageois, les chefs de village vous disent que une coutume, ils ne l'abolissent pas, puisque abolir une coutume dans un village, ils disent qu'il vaut mieux abandonner le village que d'abandonner la coutume. Alors si on veut s'adresser sur ces deux, et les exciseuses qui y trouvent leur pain, si on veut s'adresser sur ces aspects, sur ces facteurs-là, je pense qu'on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin et je pense qu'il y a un phénomène de recrudescence, certainement dû au fait que quand une lutte perdure, les gens ont plutôt l'impression qu'en fait, ce n'est pas tellement l'affaire des gens qui aient des solutions, mais c'est plutôt bon pour eux que la lutte dure.
Mais docteur, hormis tous ces facteurs, est-ce que la population n'est pas plus sensible à la souffrance de ces jeunes filles, de ces enfants. Parce que qui n'a pas vu des images d'une petite fille excisée, parfois en plein public, de voir sa souffrance morale et physique? Est-ce que cela, ça ne permet pas à certaines personnes quand même d'avancer un petit peu plus dans le sens de leur bien-être?
Oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a des zones où l'excision s'est faite justement pour faire souffrir. C'est une épreuve d'endurance, vous voyez bien. Donc c'est comme ça que dans certains contrées, on comprend. On pense que quand on va, l'excision, c'est un rite de passage. Un rite de passage exige vraiment quelques épreuves à passer. Et on pense que dans cette souffrance, c'est vraiment une sorte de bravoure pour montrer qu'on peut passer vraiment à la case supérieure. Il y a des endroits où on faisait monter les filles excisées immédiatement sur des chevaux pour voir encore juste leur niveau d'endurance.
Le voilà. Docteur Younoussa Touré était joint à Bamako, au Mali.
Pas de plaisir sans danger. La transmission du virus Zika par la voie sexuelle est possible. Attention, pas de traitement ou de vaccin spécifique.
On travaille très très vite. Beaucoup de gens s'intéressent à cette question. Je pense que la plupart des gens qui travaillent là-dessus sont conscients des enjeux.
Retrouvons le docteur Amadou Sol dans Carrefour Sciences et Santé, ce chercheur sénégalais sur Zika, samedi à 18h30 et dimanche à 20h30 en universel avec Eric Manirakis.
Et on termine sur ce sujet qui domine l'actualité, Anastasie, dans le domaine de la santé. C'est l'ONU qui demande aux pays touchés par le virus Zika, soupçonné de provoquer des malformations congénitales, d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement.
Oui, sujet grave s'il en est. Je me demande quelles seront les réactions dans les pays, notamment les plus pieux. En tout cas, pour en savoir plus, Isha Serraï a joint Cécile Pouilly, porte-parole de l'ONU. On l'écoute.
Justement pour que les mesures de santé publique qui ont été annoncées par les gouvernements concernés soient efficaces, eh bien, il faut prendre les droits des femmes en compte dans la gestion de cette crise. C'est indispensable, les femmes sont au cœur de cette crise et donc leurs droits doivent être pleinement pris en compte.
Comment promouvoir la contraception et des avortements dans les pays catholiques qui ont des populations très religieuses comme en Amérique latine?
Je pense que ce qu'il faut, faire un pas en arrière et puis revenir à la réalité que vivent beaucoup de ces femmes dans ces pays et en premier lieu reconnaître que beaucoup de ces femmes n'ont pas le contrôle sur la date, les circonstances de leur grossesse, ne serait-ce que si l'on parle des nombreux cas de violences sexuelles dont sont victimes les femmes. Alors si je prends le cas du Salvador, on parle peut-être d'un quart des femmes qui auraient expérimenté des situations de violences sexuelles ou physique au cours de l'année passée. En Jamaïque, on parle aussi d'un cinquième des femmes concernées par ces violences. Donc, il est très important, quand on parle d'accès à la contraception ou d'accès à l'avortement, de prendre ces conditions extrêmement compliquées en compte.
Ce débat concernant l'accès aux contraceptions continue pendant des années. Mais qu'est-ce qui a changé dans le contexte de Zika?
Je pense que lorsque les gouvernements de plusieurs de ces pays ont annoncé demander aux femmes de reporter leur grossesse, ça a déclenché, si vous voulez, un mouvement de réflexion sur la situation des femmes dans un certain nombre de ces pays. Où on se rend compte qu'en effet, elles n'ont pas la possibilité forcément de choisir quand est-ce qu'elles vont tomber enceintes, qu'elles n'ont pas forcément l'information disponible autour de la santé sexuelle et reproductive, et donc où on fait peser sur leurs épaules, si vous voulez, un poids qui ne prend pas en compte l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, je pense que c'est très important de remettre ce cadre en perspective et de rappeler aux États qu'il est aussi de leur obligation d'offrir un accès qui soit facile, si vous voulez, et puis nécessairement les gens à des soins de santé.
Cécile Pouilly, porte-parole de l'ONU.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés. RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Cette émission n'aurait pas été possible sans la touche magique de Lionel Gaïma à la production et Sylgrac Franklin à la console. Présentation chez Rubin Dorsil et la belle Anastasie Tudiech. Bon week-end.
Bon week-end, Gabi. À quoi va ressembler le week-end?
Ah, ça, c'est un secret.
Que vous garderez. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez avec vous, avec nous vos impressions, vos photos et vidéos. Posez-nous vos questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24. À bientôt.
Oui, il faut dire que sur Facebook, les gens peuvent partager leurs photos, leurs vidéos,
leurs avis,
tout ce qu'ils veulent. On reste ensemble sur Voafrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.